Bienvenue à Fréquence Diversité, un balado de GoFM rendu possible grâce au programme Radiomètre du Fonds canadien de la radio communautaire. Ici, on explore, on questionne et on démystifie les réalités des communautés LGBTQ+, dans l'Est ontarien et ailleurs. À travers des discussions authentiques, on donne la parole à celles et ceux qui façonnent la diversité d'aujourd'hui. Dans cet épisode, Lys discute de l'art de la drague avec Barbada.
Salut Barbada! Écoute, on va commencer ça avec les bases. Peux-tu me parler de toi?
Oh mon Dieu, parler de moi, il y a beaucoup de choses à parler. Mais moi, en fait, je suis drague. Je fais des spectacles de drague depuis 20 ans maintenant. Un petit peu plus
20 ans?
J'ai commencé en 2005 à faire des spectacles aussi. En parallèle, j'ai aussi une carrière en tant qu'enseignant de musique.
Donc,
j'enseigne la musique au primaire et je suis en pause d'enseignement quand même depuis 4 ans maintenant, c'est vrai, pour pouvoir me concentrer sur ma carrière artistique.
OK.
De drague. Mais les deux carrières ont commencé en 2005, les deux, et se sont poursuivies comme ça jusqu'en 2021 où là j'ai mis une pause sur ma carrière d'enseignant, je l'ai dit, pour poursuivre la carrière de drague à temps plein.
OK. Puis on va commencer avec une petite question déjà. Les jeunes, ils savent-tu que tu fais de la drague?
Oui, certains d'entre eux le savent, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose que j'aborde. Je ne me présentais pas, par exemple, en début d'année aux élèves en disant « Bonjour, c'est Monsieur Sébastien et je fais des spectacles de drag queen en tant que Barbada. »
Okay.
C'est sûr qu'au fur et à mesure que les années avançaient, que je devenais plus populaire en dehors du village et des bars et de tout ça, donc à la télévision avec mon émission, entre autres. Mon émission jeunesse est arrivée plus tard, par contre, mais avec des apparitions
dans
diverses émissions que les jeunes pouvaient peut-être possiblement connaître. Il y en a certains qui venaient me voir, qui me disaient « Est-ce que je t'ai vu à la télé? » Puis là, ils posaient quelques questions. Puis moi, je leur répondais le plus honnêtement possible en leur disant « Oui, c'est vrai, je fais ça, je fais des spectacles. »
T'es toujours ouvert d'esprit, toujours là pour aider les jeunes à mieux comprendre.
Ben, c'est mon esprit de pédagogue. Hein? Je veux dire, je suis prof, mais pas juste prof de musique. T'sais, je suis prof dans la vie, puis l'aspect pédagogique de n'importe quoi, en fait, me plaît.
OK. On en a vu beaucoup parler dans les journaux et tout, c'est arrivé beaucoup aux États-Unis. Les drag queens, c'est beaucoup une représentation de LGBTQ. Il y en a qui voient ça comme vraiment du négatif pour les heures du compte. Mmh. T'es-tu d'accord ou t'es pas d'accord avec ça? Mmh. Ça a-tu vraiment une importance, comme un impact?
Mmh. C'est sûr et certain que les gens qui n'aiment pas ce que je fais par rapport aux heures du compte, premièrement, très souvent, n'ont jamais assisté à une heure du compte. Donc, ils voient les dragues qui sont présentées souvent à la télévision dans des émissions comme RuPaul's Drag Race ou dans les émissions plus adultes ou à la limite sont venus voir des dragues dans les bars ou les endroits pour adultes et s'imaginent que ce qui est représenté là va être présenté aux jeunes, aux tout-petits, lors des heures du compte. Alors, évidemment, dans leur tête, ils disent « mais ça n'a pas de bon sens, je vois de la vulgarité, j'entends de la vulgarité des propos qui sont absolument pas appropriés pour des tout-petits. Mon Dieu, des outfits aussi, tu sais, des costumes qui sont osés, qui sont pas propices à des activités jeunesse et s'imaginent que tout ce qu'ils voient là dans un contexte adulte va être apporté auprès des jeunes. Mais évidemment, c'est tout l'inverse. Moi, quand je fais mes heures du compte, même si oui, Barbada est capable de faire des spectacles pour adultes dans des bars, dans des contextes pour adultes, je suis capable d'animer des mariages où il y a...
Ah, pour vrai!
Bon, j'en ai fait... J'ai fait mon 50e mariage, animé mon 50e mariage là un mois. Oui, je suis capable de faire des choses dans un contexte d'adulte, mais je suis aussi capable de faire des choses et d'adapter mon personnage pour des heures du compte avec les tout-petits, dans lesquels on parle de respect, d'identité, mais pas nécessairement, même pas d'identité de genre nécessairement. Des fois, on parle juste de toi, comment tu te sens quand... Je sais pas, tu te sens différent de quelqu'un d'autre ou quand tu vois quelqu'un différent, etc., etc., comment tu réagis? J'ai un livre, par exemple, qui n'a aucun lien avec la communauté LGBTQ+, ou même des thématiques LGBTQ+. C'est un livre qui parle d'une fille qui est bougonne et bougueuse. Elle s'appelle Ada, puis elle va à son cours de ballet, puis elle déteste son cours de ballet. Puis à un moment donné, en tournant, en essayant de faire une pirouette, elle sort de la classe du local de ballet, puis elle fonce dans un monsieur qui est habillé en pyjama, mais finalement, qui est un prof de karaté.
OK.
Et elle se rend compte, puis l'invite à faire dans le cours de karaté, parce qu'il réalise que les mouvements de danse qu'elle essayait de faire, ça s'apparentait plus à des mouvements de karaté. Fait qu'elle n'était pas bonne en danse, mais super bonne en karaté. Elle est la seule fille dans son cours de karaté, mais c'est une histoire, un conte qui parle justement de comment on sent que les filles ont le droit de faire du karaté aussi, finalement. Tu sais, aucun lien avec la communauté LGBTQ+, mais des réflexions sur est-ce que ça se peut des fois que tu rencontres quelqu'un qui est différent? Est-ce que ça se peut quelqu'un que tu rencontres, je sais pas moi, justement, une fille qui fait du karaté ou un garçon qui fait du ballet? Est-ce que ça se peut? Ben oui, ça va arriver. C'est plus rare, c'est vrai, mais est-ce que c'est mauvais? Pas du tout.
Puis c'est sans tomber dans les préjugés non plus au travers de ça, fait que c'est quand même bon pour les jeunes de pas tomber dans le « Ah! » C'est une fille qui joue au hockey, alors c'est sûr qu'elle est lesbienne. Combien de fois on l'a entendu, ce cliché-là? Mais, tu sais, tu parles beaucoup de moyens d'expression et là, tu sais, de l'impact que ça a eu. Pendant un moment, il y a comme eu une période morte après Mado dans le drag, puis c'était vraiment beaucoup associé au LGBT. Comment ça se fait que ça a autant remonté dans les dernières années, puis le monde, ils prennent vraiment ça comme un mouvement, puis c'est important pour eux. Comme, explique-moi ça, je veux comprendre.
Ben en fait, je pense que c'est beaucoup le fait que les drags se sont... l'art de la drague s'est professionnalisé. D'accord?
Okay.
Avant, ça se déroulait beaucoup, beaucoup dans des bars, dans des milieux, oui, effectivement, très associés à la communauté LGBTQ+. Au fur et à mesure, justement, avec des émissions comme RuPaul's Drag Race, avec des apparitions de drag, d'artistes drag, dans des milieux qui ne sont pas uniquement des milieux LGBTQ+. J'ai donné l'exemple des mariages que j'ai animés. Sur les 50 que j'ai faits, il y en a presque la moitié qui sont des mariages gays et d'autres de conjoints de même sexe et l'autre moitié qui sont des mariages hétérosexuels. Donc, c'est très, très... de sortir la drague du milieu LGBTQ+, et de l'amener peut-être un peu plus mainstream, notamment avec des apparitions dans des émissions de télé. Moi-même, j'ai fait plusieurs émissions de télé aussi, que ce soit des émissions où, par exemple, pour une fois sur Télé-Québec, où j'interview Robert Lepage, par exemple.
Okay.
Ou des apparitions dans des émissions de variété, Bonsoir, bonsoir, Il y a du monde à la messe. Des émissions qui, au final, nous amènent à... amène la drague. C'est pas des émissions qui parlent de drague, là. Tu comprends? C'est
ouais.
Des émissions grand public. Et de voir des artistes drague dans ces émissions-là permettent de professionnaliser l'art de la drague, de l'amener, de la déghettoiser aussi, parce que c'était très ghettoisé au milieu LGBTQ+. Et donc, en se professionnalisant, en des fois adaptant un peu aussi l'art de la drague, ça permet vraiment d'être de l'ouvrir à un plus grand public qui n'est pas nécessairement un public LGBTQ+.
Mais c'est le fun parce que eux ils se reconnaissent quand même là-dedans, puis vu que c'est devenu comme plus gros, popularisé, c'est moins pas embarrassant, mais comme ça fait moins de peine genre au monde. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire.
Pourquoi moins embarrassant? Qu'est-ce que tu veux
dire? Parce que dans le sens que depuis un temps où que le monde il utilisait ça comme moyen d'expression, mm-hmm. tu sais. Puis aujourd'hui encore, c'est un gros moyen d'expression. Et fut un temps où que c'était moins populaire, comme on l'a dit, puis que aujourd'hui le monde peut vraiment sortir puis déployer leurs ailes.
Je comprends. Donc, les gens sont moins gênés de faire une espèce de coming out.
Exactement. Puis tu sais, il y a du monde que c'est leur idole. Comme il y a beaucoup de monde qui te voit comme une idole, puis je pourrais en nommer plein de mes amis qui te trouvent vraiment cool, mais comme...
Mais tant mieux, tu sais, si je disais, mais merci, j'apprécie beaucoup, mais tu sais, le but de la drague, c'est de faire réaliser que c'est trouver une façon, un moyen pour les gens d'exprimer qui ils sont. T'sais?
Ouais.
Que ce soit à travers des spectacles, comme je l'ai dit, que ce soit à travers les costumes, le maquillage, l'animation, l'humour, le théâtre, la danse, l'art de la drague, ça combine un peu tout ça. Certaines personnes ont trouvé des niches un peu plus, tu sais, comme moi, je suis un peu plus dans le jeunesse et dans, mettons, des animations corpo ou là, des mariages, des événements corporatifs, des conférences, des choses comme ça. D'autres sont plus dans l'humour, d'autres sont plus dans les performances, etc. Il y a un mélange de tout. Mais l'art de la drague, c'est pour tout le monde et par tout le monde. C'est ça l'affaire. C'est que tout le monde peut y trouver quelque chose qu'il ou elle aime, si c'est quelque chose qui les intéresse. Comme je l'ai dit, que ce soit plus l'humour, que ce soit plus la transformation à travers le maquillage, les costumes, que ce soit plus le théâtre, l'aspect théâtral de la drague, l'aspect personnification de la drague. Il y a plein de choses comme ça dans lesquelles on peut travailler puis explorer et ça devient vraiment un exutoire. Et moi, ça a été ça aussi, c'est un exutoire pour m'exprimer exprimer ma créativité. Et je pense que pour beaucoup, beaucoup de gens, c'est ça aussi.
Beaucoup de dragues font partie de la communauté LGBTQ. On a entendu le mythe que toutes les dragues sont homosexuelles. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Parce que ça reste que les dragues, c'est un gros porte-parole quand même.
C'est un gros porte-parole, effectivement, pour la communauté LGBTQ+, et ça l'a souvent été, notamment parce que, justement, la visibilité des dragues permet d'être des porte-parole, puis d'avoir un impact visuel qui attire déjà l'attention.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Tu sais, c'est pas juste le look qui fait que c'est des porte-parole. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vient chercher?
Ben, c'est probablement aussi le fait que, justement, comme je l'ai dit, oui, il y a pas juste le look. Il y a, tu sais, être une drague, c'est déjà quelque chose qui chamboule les normes un peu.
OK, ouais.
Dans le sens où on est beaucoup plus dans quelque chose qui est inhabituel. La journée où moi, je suis en drague, puis il n'y a personne qui se retourne dans la rue, mettons, je marche dans la drague, dans la rue ou quoi que ce soit, puis qu'il n'y a personne qui se retourne, il n'y a personne qui réagit, que ce soit positivement, on l'espère, ou négativement, bien, clairement, il y a quelque chose que je fais de pas correct. Je suis pas assez flamboyant, c'est pas assez gros, c'est pas assez exagéré, c'est pas assez... bon. Alors, la drague et les artistes drague ont toujours déjà un impact visuel parce que ça chamboule les normes. T'sais? Le but, c'est d'être un peu hors norme quand on fait de la drague aussi. Et même lorsque la drague se mainstreamise, donc se normalise un peu, on trouve quand même des façons d'être en dehors de la norme. T'sais? Des dragues qui, par exemple, ont décidé que même si elles avaient un personnage de drag queen, donc très féminin, avec des...
Garder la barbe.
Exactement, garde la barbe aussi. Donc, c'est comme de pousser encore plus loin, de dire, OK, maintenant, les gens sont capables acceptent des drag queens belles, féminines, mais qui ont une voix masculine comme moi. Mais là, comment je fais pour aller encore plus loin? C'est quoi l'autre étape? C'est quoi? La drague, c'est de défoncer des barrières, puis c'est d'aller plus loin que ce que la personne s'attend de voir. C'est pas juste d'être belle ou d'être beau, puis de faire rire les gens. Il y a beaucoup plus que ça aussi. Alors, pour répondre à ta question, je pense que certaines dragues, et pas tous, certains artistes dragues, pas tous, mais ont un souhait de justement de briser ces barrières-là, de briser ces plafonds de verre-là en allant plus loin, en poussant les limites aussi, puis en faisant questionner, en faisant en sorte que les gens se questionnent sur c'est quoi la norme. T'sais? La norme, c'est un homme qui porte des pantalons puis une femme qui porte une jupe, mais OK, une robe. OK, mais là, si tu vois un homme qui porte une robe et qui la porte de façon super élégante et qui a l'air, à la limite, presque d'une femme, mais exagéré, on brise la norme, là. T'sais?
C'est pour ça que le monde, la communauté, ils se reconnaissent un peu parce que ça sort de la norme.
Exactement.
OK, exactement. Là, je comprends. Exactement. Ton orientation sexuelle, est-ce que Barbada t'a permis d'aider à exprimer ça puis à te découvrir au travers?
Pas dans mon cas, véritablement, parce que j'avais déjà fait mon coming out depuis quelques années avant de commencer à faire de la drague. J'ai été chanceux, puis j'ai fait mon coming out. Ben, chanceux, je ne sais pas si c'est une chance, mais j'ai fait mon coming out quand même jeune, à 16 ans, à ma mère, 16 ou 17 ans, en tout cas, bref. C'était quand même jeune, puis j'avais pas... je savais, puis ma mère le savait aussi, et ben c'est ça. T'sais, moi-même, étant seul avec ma mère est monoparentale, j'ai pas de frère et sœur, et j'ai jamais connu mon père. Une autre chose qui me met un peu hors norme aussi, on s'entend. Moi, ça a toujours été super facile ça a été comme logique, on va dire, de faire mon coming out. Simplement, juste pour officialiser le tout, parce que je savais très bien qu'elle le savait. Ceci dit, la drague m'a apporté d'autres choses aussi, pas nécessairement juste par rapport à mon orientation sexuelle, mais beaucoup aussi par rapport à la communauté. Ça m'a permis d'être dans la communauté davantage aussi, donc de faire des spectacles et de faire partie justement de cette communauté LGBTQ+. Et au fur et à mesure que j'ai continué dans la drague, bien, la drague m'a apporté beaucoup d'autres choses en termes de confiance en moi, en termes d'aptitude à plein de sortes d'aptitudes aussi, que ce soit dans l'animation, que ce soit dans les performances. Mon Dieu, que ce soit même dans le montage musical, parce que je suis devenu DJ aussi par la suite en faisant... Tu sais, il y a plein d'aptitudes que ça m'a apporté qui sont, mon Dieu, très bénéfiques pour moi-même en dehors de la drague, tu sais.
Okay. Puis, tu sais, tu parles justement, tu sais, ça a permis de souder ton lien avec la communauté LGBTQ. Peux-tu me décrire ce lien-là, comment toi, tu le vois?
C'est intéressant parce que c'est pas tous les artistes drag qui le font de la même façon. Tu sais, certains artistes drag ont, comment dire, certains artistes drag sont beaucoup plus dans la performance. Je veux être sur scène, je veux m'exprimer. Certains artistes drag récemment aussi, par exemple, depuis la pandémie, sont que sur les réseaux sociaux ou presque.
Oui, c'est...
Les scènes sont beaucoup dans les réseaux sociaux, style influenceur ou des choses comme ça. Mais il y a des artistes drag qui, comme moi, ont un certain désir de faire avancer les choses.
Okay.
De faire bouger les choses aussi. Je l'ai souvent dit que moi, j'ai la chance d'avoir un micro, une vitrine pour pouvoir... Ben justement, pour pouvoir parler, pour pouvoir utiliser cette vitrine-là, ce micro-là, pour faire avancer les choses, pour changer certaines mentalités, etc. Alors moi, ça a été vraiment mon cheval de bataille, mais un peu, d'aller éduquer, d'aller éveiller des esprits, d'utiliser ma drague, mon art, ma vitrine, la vitrine qu'on m'offre à travers mon art, pour faire toutes ces choses-là, aller éduquer, aller faire changer certaines mentalités. Et je pense que de façon générale, ça fonctionne. Ça ne veut pas dire évidemment que ça fonctionne tout le temps. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour tout le monde. Mais je pense que les gens qui me côtoient ou qui ont entendu mon message ont été capables de faire un petit pas en avant ou à la limite un petit pas de côté. C'est pour dire, je n'étais peut-être pas tout à fait sur le bon spot. Il y a des choses qui me font réfléchir aussi. Ça ne veut absolument pas dire que ces personnes-là vont être d'accord avec tout ce que je dis. Pas du tout. Mais je sais très bien que au moins, ça va avoir permis de... ne serait-ce que d'ouvrir, de faire une petite craque dans les mentalités peut-être très fermées, trop fermées. Et cette craque-là, comme disait Leonard Cohen, « There's a crack in everything, that's where the light comes in », c'est juste suffisant des fois, juste pour commencer à ouvrir les esprits, puis faire comme, ben, tu sais quoi, c'est pas quelque chose que je connais. Mais en m'ouvrant un tout petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu, ben, je comprends un peu plus c'est quoi. Ça ne veut pas dire que j'aime ça nécessairement, et c'est correct de ne pas aimer, mais au moins, je suis un pas de plus dans l'acceptation, ou à la limite même plus le respect des personnes qui font ça ou qui sont comme ça.
Sur les réseaux sociaux, est-ce que ça t'est déjà arrivé de recevoir de la haine sur les réseaux sociaux, des messages haineux?
Ben oui, comme tout le monde, effectivement. Dès qu'on est une personnalité publique, les gens se servent malheureusement parfois des réseaux sociaux pour promulguer cette haine-là. Oui, ça arrive.
C'est ça, puis t'es vraiment quelqu'un qui est ouvert et qui présente un certain message. C'est quoi que le monde t'envoie par rapport à ça?
Ben, ça dépend vraiment aussi. Je pense qu'il y a bien des gens qui se permettent sur les réseaux sociaux, puis c'est un peu le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il y a cette impunité-là. Donc, les gens se permettent de dire n'importe quoi, qui pensent probablement pas autant, tu sais. Parce que si j'étais devant eux, réellement, devant elles, devant ces personnes-là, probablement que ces personnes-là ne me diraient jamais ce message-là, n'auraient jamais le courage de me le dire, tu sais. C'est qu'il y a une forme d'impunité, parce qu'ils savent très bien que je pourrais à ce moment-là répondre et que je saurais qui ils sont réellement, qui ces personnes-là sont réellement, ils sont devant moi, tu sais. Alors que derrière un écran, avec des profils qui sont parfois, pas toujours, mais parfois faux aussi, les gens sentent... Ils sentent qu'ils ont une espèce d'impunité. Certaines, pas les gens, mais certaines personnes sentent qu'ils ont cette impunité-là de pouvoir dire et faire ce qui leur tente. Alors, c'est pour ça que, oui, en tant que personnalité publique, ça arrive. Mais tu sais, ça peut être la même chose pour des chanteurs, des chanteuses, n'importe qui.
Ouais.
Qui fait quelque chose qui est le moindrement public doit, jusqu'à un certain point, s'attendre à avoir des commentaires de toute nature. Puis, plus tu es public, plus tu es connu, plus tu vas recevoir ces messages de toutes sortes.
Les commentaires haineux que tu reçois, ça se dirige comme...
Ben, je te dirais que je préfère de loin parler de commentaires positifs que je reçois.
Ouais, c'est sûr.
Positif, parce qu'au final, les commentaires, quand je reçois des commentaires négatifs, je réponds « merci beaucoup », ça me donne toute la motivation du monde à continuer ce que je fais.
OK, c'est ça. C'était ça ma question, si c'était comme adressé à Barbada précisément, oui, comme justement vrai, à propos de ce qu'elle fait.
Les gens m'écrivent. Ben, en fait, ça dépend. C'est rare que les gens puissent... Je dis ça, mais j'en ai très peu reçu depuis un certain temps. Des fois, c'est plus dans les commentaires de publications ou quoi que ce soit. Les gens se permettent de commenter certaines publications. Fait que ça me prouve encore plus aussi que les gens ont... Certaines personnes qui utilisent les réseaux sociaux n'ont pas le courage d'écrire aussi. Tu sais, s'ils prenaient la peine de m'envoyer un message privé, non, souvent, c'est le commentaire qui se fait dans la publication ou la vidéo, peu importe. Mais il y a infiniment plus de messages positifs. C'est ça qu'il faut se rappeler aussi. C'est pour ça que c'est toujours un petit peu tannant parce qu'on est des fois dans... c'est quoi les messages négatifs que tu reçois, c'est quoi le négatif, puis on axe beaucoup sur les négatifs, d'accord, c'est vrai, il y en a, mais au final, il y a infiniment plus de personnes qui comprennent ce que je fais, qui approuvent ce que je fais et qui apprécient ce que je fais aussi, tu sais. Tu sais, de focusser trop sur les messages négatifs, ça leur donne encore plus d'importance qu'ils en ont réellement, tu sais. C'est comme si, au final, ces messages négatifs-là qui représentent peut-être 1% des messages que je reçois, même pas, 0.5%, là, soudainement, parce qu'on leur accorde de l'importance, ben, occupe 50% de l'espace.
OK. Ben, d'abord, dans ce cas-là, je vais me tourner vers tes commentaires positifs. C'est quoi un beau commentaire qu'on t'a fait?
Un beau commentaire qu'on m'a fait, c'est vraiment de dire, hey, tu m'as amené à m'ouvrir sur quelque chose que je connaissais pas. Ou, t'as changé la perspective de telle personne. Tu sais, mon fils est, se cherchait beaucoup. Puis grâce, en écoutant ton émission, par exemple, ou en écoutant certaines de tes entrevues, ou en écoutant certains podcasts, ou peu importe, moi, ça m'a permis de mieux comprendre la réalité de mon fils ou de ma fille, puis de les aider à les accompagner. Tu sais, ça, c'est un super beau commentaire qu'on peut me faire. Ouais. Puis, très honnêtement, ce commentaire-là, il m'est arrivé quand même à quelques reprises, puis ça fait...
Ouais. Justement, tu sais, tu parles d'accompagner. Tu donnes-tu des conseils dans tes vidéos, dans tes apparitions, justement, par rapport à notre belle communauté LGBTQ?
Je dirais que ça dépend vraiment parce que, oui, ça va m'arriver, effectivement, tout à fait, de donner certains aspects.
Qu'est-ce que tu donnes comme conseil? Là, tu piques ma curiosité, je trouve ça trop cute.
Je ne peux pas nécessairement donner des conseils parce que chaque personne le vit différemment.
C'est
sûr que dans des thématiques globales sur acceptons-nous nous-mêmes, tu sais, soyons fiers d'être dans la normalité, d'être anormal, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Soyons fiers d'être qui nous sommes. C'est pas des commentaires précis ou des conseils précis sur... Je pourrais pas me permettre de donner un conseil précis à quelqu'un ne connaissant pas toute sa vie, sa réalité. Il faudrait un bel échange avec une personne pour, au final, lui permettre de me donner un conseil, de lui donner un conseil. Mais c'est sûr et certain que moi, je reste dans... l'ouverture, l'écoute, c'est le conseil que je peux donner. On a deux oreilles et une seule bouche. On devrait écouter deux fois plus qu'on parle.
Oh wow, j'aime ça cette phrase-là. Oui. C'est super beau.
C'est un conseil que je donne aussi très souvent aux personnes qui ne savent pas comment dealer, par exemple, avec certains trucs. Puis, tu sais, au final, je ne suis pas un psychologue non plus, là, puis je ne suis pas un intervenant. Donc, ce n'est pas nécessairement vers moi que les gens vont se tourner si les personnes ont des questions. Mais ces personnes-là, si ces personnes-là m'écrivent, moi, je sais où, vers où les diriger. Tu sais, si ton fils ou ta fille fait un coming out en tant que personne trans, ben, il y a un organisme qui s'appelle l'Aide aux trans du Québec, tu sais, qui existe, et moi, je peux te diriger vers là, mais tu sais peut-être pas que ça existe. Alors, si tu me demandes des conseils, moi, mon réflexe, ça va être effectivement de te diriger vers des organismes, des ressources qui sont beaucoup plus
spécialisé
exactement que moi.
Puis mettons qu'un jeune vient t'écrire que t'es son idole et que c'est à toi qu'il veut parler. À ce moment-là, tu vas être d'une écoute. Puis qu'est-ce que tu vas faire à la fin?
Ben, ça dépend. Je l'ai dit, je vais écouter beaucoup plus. T'sais, je vais poser quelques questions pour être capable vraiment d'écouter ou de recevoir ce que la personne a à me dire. T'sais. Puis, par la suite, au final, ben, là, je vais être capable de guider cette personne-là, dépendamment est-ce que cette personne-là a besoin plus, justement, de ressources ou simplement juste avait besoin d'une écoute, d'être écoutée, puis de dire, ben, ce que tu ressens est valable. T'sais.
Comment tu dénonces les injustices au travers de Barbada?
Ben, mon Dieu, en prenant parole, c'est sûr, à travers des podcasts comme celui-ci, par exemple, à travers des prises de parole, que ce soit pendant les grands événements dans la fierté, que ce soit dans les entrevues radio, que ce soit dans les entrevues télé, que ce soit à travers les médias sociaux aussi, lorsque je vois des actes qui sont répréhensibles envers la communauté LGBTQ+, Je prends parole, puis j'essaye le plus possible. Est-ce que je le fais à toutes les fois, à toutes les opportunités? Non, parce qu'au final, je vais me retrouver à faire que ça. Et je pense que ça va être vraiment...
OK.
Ça serait probablement néfaste pour ma santé mentale aussi, de moi à moi, de devoir constamment lutter pour les droits de la communauté ou pour les... Bon, je ne suis pas tout seul là-dedans et je ne peux pas être la seule... porte-étendard, je peux pas prendre tout ce poids-là sur mes épaules.
C'est ça, comme le monde a aussi leur partie à faire là-dedans, de ce que je comprends. Fait,
bien sûr.
Tu sais, c'est sûr que les drags sont là pour être porte-parole, mais comme tout le monde a sa partie à faire, le monde font partie de la communauté, puis ouais. Ils ont besoin de faire le message.
Mais attention, pas que les gens qui font partie de la communauté.
C'est vrai.
Les alliés. C'est extrêmement important pour ça. J'en viens à mon exemple de tout à l'heure, des toilettes pour les personnes de couleur, puis les toilettes pour les personnes blanches, là, jadis. Aux États-Unis, par exemple, même ici au Canada aussi, on a eu des exemples similaires. Quand on regarde Viola Desmond, par exemple, qui est allée dans un cinéma, qui avait payé son billet comme tout le monde, qui s'était assis au parterre, puis qui s'était fait dire « Non, non, vous n'avez pas le droit de vous asseoir », mais qu'elle avait payé son billet. C'est toutes des histoires qu'il faut connaître aussi, je pense. Pourtant, okay. Cette personne-là, elle est sur nos billets de 10$ là, en ce moment, Viola Desmond. Il faut connaître son histoire, puis c'est important. Ça s'est produit au Canada aussi, ces actes-là. Mais qui a fait en sorte que ça ne se produise, que ça ne produit plus, puis que justement, on n'ait plus de toilettes pour les personnes de couleur et que les personnes de couleur, s'ils achètent un billet, ils peuvent avoir accès à n'importe quelle place dans un cinéma et non pas à une section réservée aux personnes de couleur au balcon avec des places où on voit moins bien. Ce ne sont pas que les personnes de couleur qui ont fait changer ça, ce sont aussi les personnes blanches. Et c'est pour ça que je dis que les alliés dans les luttes LGBTQ+, sont extrêmement importants aussi, parce que, oui, c'est vrai, les luttes partent des personnes qui sont de la communauté, des personnes marginalisées qui font partie de la communauté parce que, justement, leurs droits ne sont pas respectés. Mais pour faire changer ces droits-là, il faut les alliés qui font partie de la majorité, qui sont, par exemple, à l'Assemblée nationale, dans nos politiques, qui sont du côté politique, juridique, qui sont du côté... social aussi, au public. Bref, ça prend ces alliés-là aussi pour faire changer, pour faire avancer les droits de la communauté. Ce ne sont pas que les membres de la communauté qui ont à faire ça. T'sais. Au même titre que, je ne sais pas moi, des personnes âgées qui disent « Moi, je ne recycle pas, ça ne donne rien, la planète va se réchauffer, je ne serai plus là. » Mais non, ces personnes-là doivent aussi, je pense, ont une partie de leur part à faire aussi. Autant que les jeunes aussi qui vont vivre peut-être plus tard, qui vont vivre dans une planète qui va peut-être être en constant changement climatique aussi. Donc, je pense que tout le monde a un petit bonhomme de chemin à faire là-dedans. Mais que... Puis, tu sais, les alliés sont importants, mais des fois, le problème, c'est que les gens disent « Mais là, je comprends plus, il y a trop de lettres dans la LGBTQIA+, je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire tout ça, je suis pas à l'aise de tout ça. » On n'a pas besoin de 1000 alliés parfaits. On a besoin d'un million d'alliés imparfaits. C'est correct de ne pas tout comprendre. C'est correct de ne pas comprendre toutes les spécificités du monde, de l'univers, de la communauté LGBTQIA+. Il n'y a pas nécessité d'être parfait dans, par exemple, on ne demande pas à n'importe... On ne veut pas que tout le monde devienne des accompagnateurs parfaits pour quelqu'un qui fait une transition, par exemple,
oui.
Ou pour quelqu'un qui fait son coming out. C'est correct de ne pas tout comprendre. L'important, c'est juste de garder un esprit ouvert, ouvert pour apprendre de nouvelles choses aussi. Et en grandissant, malheureusement, des fois, on disait, de toute façon, on n'avait pas un vieux singe des nouveaux trucs, là, mais il faut quand même garder un esprit ouvert pour essayer, même en grandissant, de dire, ah, OK, il y a peut-être des choses qu'on m'a appris, c'est peut-être pas les bonnes choses, là. C'est peut-être pas la bonne façon, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Il y a peut-être d'autres avenues aussi. Et de garder cet esprit ouvert-là, même si on ne comprend pas tout, même si on ne comprend pas toutes les subtilités, l'essentiel, c'est de garder un esprit ouvert pour faire en sorte que les choses avancent.
Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais passer à la communauté Barbada?
Ben, c'est sûr qu'en ce temps-ci, on n'a pas nécessairement une... c'est difficile de perdre espoir un peu. On voit ce qui se passe partout à travers le monde. Puis, peut-être pas, c'est même pas juste à cause des gens de la communauté LGBT, tu sais, par rapport aux gens à la communauté LGBTQ+, mais plus largement, tu sais, je pense qu'en ce moment, quand on entend parler de guerre, oui, tu sais, c'est pas des mots qu'on est habitué d'entendre nécessairement, souvent et régulièrement, dès qu'on ouvre la radio. Tu sais, aujourd'hui, j'ai écouté juste les nouvelles, puis je pense que j'ai entendu trois fois le mot « guerre » pour trois choses différentes. Tu sais, tu fais comme « OK, ça devient lourd, là, tu sais, guerre tarifaire, guerre Israël-Gaza, puis guerre, guerre Russie et
Ukraine. »
Tu dis « Aïe, aïe, OK, ça peut commencer à être lourd. » Puis quand après ça, on y va au niveau un peu plus... au niveau macro, au niveau micro, de voir ben, les droits des personnes LGBTQ+, par exemple, même à certaines fois, à la limite, les droits des femmes reculés aussi, on pense aux États-Unis avec l'avortement, tout ça. C'est clair que c'est facile de se décourager quand on voit qu'il y a certaines choses qui reculent. T'sais. Mais moi, je vois les luttes comme... Que ce soit les luttes pour les droits LGBTQ+, ou les luttes pour les droits humains en général... Un peu comme les séries au hockey, d'accord? Les séries au hockey, tu peux avoir une année où ton équipe fait les séries, se rend jusqu'en finale de Coupe Stanley, gagne ou gagne pas la Coupe Stanley, peu importe, ça va super bien, tout est formidable. Et ces années-là, il y en a eu. Quand on, par exemple, on a eu le droit pour les personnes au Canada, pour les personnes de ce même sexe de se marier, par exemple. Il y a des années où il y a des belles avancées, oui, des choses qu'on voit quand Barbada est devenue, par exemple, la fille des étoiles pour le défilé du Père Noël. Je trouve que c'est des belles avancées, etc. Je donne ça comme exemple un peu humoristique, mais il y a des belles années où on se rend en série, puis même à la limite, on gagne la Coupe Stanley. Mais peu importe ce qui arrive, là, même si on la gagne, la Coupe Stanley, il n'y a pas une seule équipe qui gagne la Coupe Stanley qui fait « Bon, ben c'est beau, on l'a gagné, c'est fini pour les 10 prochaines années, on peut s'asseoir puis presque plus rien faire, perdre nos matchs, puis pas participer, puis pas se rendre en série. » Ben non, l'année prochaine, l'année suivante, c'est encore à recommencer. Et c'est de travailler encore fort pour se rendre, si possible, en séries éliminatoires. Et donc, qu'on la gagne ou pas, ben c'est à recommencer. C'est un peu le même principe aussi. Il y a eu des belles avancées, mais cette lutte-là, elle continue, elle doit continuer tout le temps, un peu comme les séries. La différence, c'est que nous, contrairement aux gens qui étaient à ce tournoi en 60, dans les années 60, 69, ou qui ont lutté, par exemple, ou qui ont connu la crise du VIH-SIDA dans les années 80-90, oui, qui ont connu les débuts et qui n'avaient visiblement jamais gagné la Coupe Stanley. Des personnes qui sont mortes sans savoir que des personnes de même sexe pouvaient se marier ou qu'une drag queen pourrait aller lire des contes pour enfants ou pourrait avoir son émission jeunesse. T'sais, des gens qui n'ont jamais été en série, qui n'ont jamais vu les séries et qui ont vécu uniquement d'espoir d'un jour voir ces droits-là augmenter, à évoluer, ben nous, on sait que c'est possible. Nous, on le sait, on l'a déjà gagné la Coupe Stanley avec des avancées super comme justement les droits des personnes du même sexe de se marier, la reconnaissance de certains droits LGBTQ, peu importe. On le sait que c'est possible. Fait qu'on ne vit pas juste d'espoir, on le sait, mais il faut se rappeler que même si des années ça va super bien et qu'on se rend en finale de la Coupe Stanley, on gagne la Coupe Stanley, ben l'année après, c'est à recommencer aussi. Alors, je pense que les luttes pour les droits LGBTQ, c'est un peu le même principe. La seule chose, c'est qu'il faut se le rappeler pour ne pas se décourager pendant les années où on se rampe en série, comme c'est un peu le cas en ce moment.
Je pense à ça, j'ai pas pensé à te poser la question. Le Pride Month, toi, tu le vis comment?
Ben, en fait, le Pride Month, je te dirais que c'est, pour moi, c'est beaucoup, parce que je suis à Montréal, c'est beaucoup plus la fierté à Montréal. Donc, au début août, là, en ce moment, ça va commencer très bientôt, là, du 31 juillet au 10 août, c'est vraiment les moments, le moment principal de mon année. Beaucoup plus que le Pride Month qui est en juin, qui est célébré à d'autres endroits dans le monde et au Canada. Mais nous, à Montréal, c'est beaucoup plus au début août. Alors, moi, c'est beaucoup là que je célèbre ma fierté, le Pride Week, week and a half, on va dire. Même chose pour exemple, à la fin du mois d'août, là, c'est à Québec que ça se passe. Et moi aussi, je suis quelqu'un de Québec. Fait que, tu sais, je dirais que c'est beaucoup plus dans ces moments-là que je les vis. Mais je les vis en affichant mon drapeau, en participant à plein d'événements, en animant plein d'événements aussi à travers ces semaines-là. C'est comme ça que je les vis, puis je les vis un peu fatigué à la fin parce que c'est des grosses, très grosses semaines, mais je les vis intensément, puis avec beaucoup de fierté.
Fréquence Diversité, un balado de GoFM rendu possible grâce au programme Radiomètre du Fonds canadien de la radio communautaire.